Bienvenue à ce 666e Disto Show, mesdames et messieurs. Oui, c'est spécial, on est dans le satanisme aujourd'hui. Écoutez, le sujet d'aujourd'hui, le trafic et l'esclavage sexuel des enfants, les sacrifices rituels sataniques et le cannibalisme sont-ils une réalité? Un texte de l'auteur Guy Boulian. Voix, son et images, votre humble serviteur. C'est parti! Une ancienne vidéo a refait surface récemment sur les réseaux sociaux, ce qui m'a incité à parler d'un sujet délicat, tabou et extrêmement grave, c'est-à-dire la traite des êtres humains, en particulier celle des enfants, qui conduit jusqu'au cannibalisme. En août 2009, un événement étrange s'est produit dans la ville de Monterrey, dans le nord-est du Mexique. Une jeune fille de 21 ans nommée Gabriela Rico Jiménez a provoqué le chaos devant un hôtel, criant de manière incohérente et portant des accusations à gauche et à droite contre plusieurs personnalités importantes, mentionnant même la reine Élisabeth. Oui, feu reine Élisabeth, quand même. Ceci a été enregistré sur vidéo grâce à une chaîne de télévision qui nous a présenté cette jeune femme atteinte d'une sorte de maladie mentale et peut-être d'une sorte d'overdose. Ou peut-être que la chaîne Info 7, soit TV Azteca, voulait nous faire croire à cela, puisque les accusations lancées incluaient la dénonciation d'actes inhumains par des personnages qui font partie de ce que l'on appelle aujourd'hui l'élite. Gabriela Rico Jiménez s'est fait connaître lorsqu'en août 2009 à Monterrey, capitale de l'État de Nuevo León, située dans le nord-est du Mexique, elle a joué dans un scandale à la tombée de la nuit à l'entrée d'un luxueux hôtel situé rue Ocampo, entre les avenues Cuauhtémoc et Pino Suarez. Elle a alors accusé la reine d'Angleterre, Élisabeth II, et l'homme d'affaires Carlos Slim de manger de la chair humaine, tout en implorant sa liberté. La protagoniste de 21 ans a fait un tel scandale que les employés de l'hôtel ont averti la police, qui l'ont amenée en garde à vue. La jeune femme, alors en état de choc post-traumatique, déplorait les crimes que l'élite au pouvoir a commis contre une série de personnes que Gabriela connaissait, dont trois de ses amis, incluant Juan Camilo Moriano. Gabriela dit qu'elle s'est longtemps battue pour retrouver sa liberté et que Carlos Slim, Dominique, savait tout. La chaîne de télévision mexicaine a censuré certaines séquences avec des bips afin que certains noms ou certaines accusations ne soient pas audibles. Au cours d'une de ces phrases, Gabriela mentionne un certain Carlos Slim, Dominique. Beaucoup pensent qu'elle fait référence à Carlos Slim, Domit, fils de Carlos Slim Helu, qui se trouve être l'un des hommes les plus riches du Mexique avec une fortune de 53 milliards de dollars américains, et aussi l'un des plus influents de la société mexicaine. Dans la vidéo, Gabriela sous-entend que Carlos l'a gardé captive depuis 2001 et qu'il a également consommé de la chair humaine. Beaucoup pensent qu'en partie de ce qu'elle a dit pourrait être probablement vrai lorsqu'elle mentionne qu'elle a été amenée en 2001, c'est-à-dire à l'âge de 13 ans, et qu'elle y a probablement été maltraitée et vendue. En fait, Gabriela est sans aucun doute une victime du contrôle mental de type MK Ultra. Les victimes de la traite sont droguées et maltraitées physiquement et mentalement. Il est probable que cette pauvre femme qui a réussi à fuir reste avec les traumatismes de son horrible passé. Et il est possible qu'elle ait choisi cet hôtel parce que ses clients l'ont amené là-bas, a mentionné un utilisateur. Beaucoup pensent que la jeune femme a été impliquée contre son gré dans ce groupe d'élite et qu'en raison du traumatisme qu'elle a subi, sa protestation a éclipsé la vérité, car elle ne semblait pas saine d'esprit. Ce qui a fait qu'elle n'a pas été prise au sérieux. Ce qui nous amène à la mystérieuse disparition de Gabriela Rico Jiménez. Le matin du mardi 4 août 2009, les téléspectateurs de la ville mexicaine de Monterrey ont été choqués et intrigués par un segment de nouvelles locales sur un événement de la nuit précédente qui s'est déroulé devant un hôtel haut de gamme appelé Fiesta Inn. Le clip montre une jeune femme très désemparée qui était grande et mince et portait une chemise déchirée sur laquelle on pouvait lire « Yum Yum ». La femme déclamait et se promenait de façon erratique. Certains passants ont pris des séquences vidéo qui ont fait leur apparition aux nouvelles locales du matin. Il n'est pas nécessaire de connaître la langue espagnole pour ressortir la confusion, le désespoir et la déception de cette jeune femme. Alors, voici une transcription de ce que la jeune femme disait. À partir du plus long des rares enregistrements vidéo disponibles, la jeune femme commence. « Je voulais ma liberté. Monterrey m'a libéré, mais cela m'a coûté beaucoup de travail. J'étais à Mexico pendant 1 an et 4 mois. Tout cela a commencé à la mi-2001. » Je m'en souviens à peine. Ils étaient jeunes et puissants et ils les ont tués. J'ai frappé aux portes. Ce que je voulais, c'était ma liberté. Je veux ma liberté. Carlos Slim Dominic était au courant. Je veux ma liberté. Ça fait mal à mon âme qu'il l'ait amené. La police est alors arrivée et a commencé à s'approcher de la jeune femme désemparée et elle a continué. Laissez-moi tranquille. Ils m'ont déjà amené au poste de police et là, ils m'ont dit qu'ils ne savaient rien. Ils m'ont amené à l'hôpital général. La femme a alors pointé du doigt un officier et continua à crier. « Toi, tu étais là. Allez chercher-le. Vous avez tué Moreno. » Ils m'ont dit « Qui avait-il tué? La reine d'Angleterre? La reine d'Allemagne? » Ont-ils tué les princesses et Mickey Mouse? C'était aussi lui. Quoi? Rien ne va venir ici. Les gens d'où tu viens sont fous. Ils ont tué beaucoup de gens. Morts à ce genre humain, s'en aller. Ils ont mangé des humains, dégoûtants. Ils ont mangé des humains. Je n'étais au courant de rien. Des meurtres, oui, mais ils ont mangé des humains humains. Ils sentent la chair humaine. Une policière corpulente aux cheveux couleur moutarde de tir en arrière s'est alors approchée de la jeune femme en délire. « Vous n'allez pas me prendre jusqu'à ce que ce soit clarifié. Tu m'as déjà emmené là-bas, laisse-moi partir. » La femme a été poussée dans un véhicule de police et ils l'ont emmenée. Les présentateurs ont identifié la jeune femme comme étant Gabriela Rico Jiménez. Lorsque cette histoire est arrivée sur Internet, il y avait beaucoup de descriptions de Gabriela. Des journalistes amateurs et des chercheurs marginaux ont entendu parler de l'incident et ils ont voulu enquêter plus avant, en commençant par obtenir des informations sur cette mystérieuse femme en délire. Gabriela a été décrite comme une top modèle mexicaine dans la même ligne que Christy Turlington, Linda Evangelista ou Naomi Campbell. Les blogueurs de l'époque affirment que Gabriela a eu une carrière qui l'a amenée sur les podiums de la mode à Mexico, Paris et New York et qu'elle était apparue sur la couverture de la version mexicaine du magazine Cosmopolitan. Une recherche sur Internet en 2022 ne fournit aucune preuve que Gabriela ait eu une carrière de mannequin. Les chercheurs modernes ne peuvent même pas trouver une agence ou un agent utilisé pour ses soi-disant nombreuses réservations. Certains des articles et publications de blogs les plus anciens contiennent des références, mais les liens sont rompus ou les sites ont été supprimés. L'histoire de l'Internet moderne de Gabriela commence étrangement avec son apparente panne devant l'hôtel de Monterrey. Certains chercheurs pensent que toute l'histoire que Gabriela aurait pu avoir avant le célèbre incident a été effacé de l'Internet. Depuis l'événement au Fiesta Inn, beaucoup ont analysé le sens de ce que disait Gabriella et ont essayé de fournir un contexte. Certains pensent qu'elle avait échappé à une sorte de situation de traite des êtres humains ou qu'elle était détenue prisonnière. En tant que mannequin, Gabriella a peut-être évolué dans les cercles sociaux mexicains d'élite et sa vie a peut-être croisé celle des personnes les plus puissantes et les plus notoires du Mexique et d'ailleurs. Elle a fait des allégations inquiétantes et semble avoir touché de nombreux points que les enquêteurs de la théorie du complot et les chercheurs marginaux aiment aborder, soit la famille royale britannique, Disney avec ses références à Mickey Mouse et bien sûr le cannibalisme pratiqué par les élites. Juan Camilo Moreno. Il convient de noter en particulier les références de Gabriella à tous ces puissants Mexicains. Elle affirme « Carlos Slim était au courant. Au moment de cette panne apparente, Carlos Slim était l'homme le plus riche du monde. Les plus riches ont toujours des histoires qui circulent à leur sujet alléguant de nombreuses choses différentes. Il y avait une rumeur sur Internet qui circulait selon laquelle Gabriella était peut-être proche de l'un des fils de Carlos Slim. Et parce qu'elle était proche de lui, elle était au courant de nombreuses informations privilégiées dont certaines auraient pu compromettre la famille Slim et leurs intérêts commerciaux. Gabriella a également mentionné le nom de Moreno dans sa diatre publique. Juan Camilo Moreno Terrazzo était un homme politique mexicain affilié au Parti d'Action Nationale, ou PAN. Il a été secrétaire de l'Intérieur dans le cabinet du président Felipe Calderón. Il est décédé en novembre 2008 lorsque le petit avion privé dans lequel il voyageait s'est écrasé dans le trafic aux heures de pointe à Mexico dans des circonstances très mystérieuses. Il y a eu 16 morts dans ce supposé accident. Les 9 personnes à bord de l'avion sont mortes ainsi que 7 personnes au sol. Juan Camilo Moreno n'avait alors que 37 ans lors de son décès. En tant qu'homme fort du président Felipe Calderón, le secrétaire Moreno avait mené une campagne gouvernementale contre les puissants cartels de la drogue du Mexique. Gabriella savait-elle quelque chose d'important à propos de cette mort mystérieuse? Quelques jours après que la télévision locale ait diffusé la panne de Gabriella et après que l'incident ait pris sa propre vie sur Internet, les enquêteurs étaient curieux du sort de Gabriella. Ce qui lui est arrivé? Nous savons avec certitude qu'elle a été amenée par la police. Selon l'encyclopédie virtuelle Chili Wickenkirk de 2015, un témoin donna son témoignage de ce qu'il a vécu à la première personne après avoir approché Gabriella avec l'intention de l'aider. L'homme qui était avocat, en visite chez un client à l'époque, avait ceci à dire, traduit de l'espagnol. À cette époque, j'étais au même endroit où la fille a été amenée après avoir été arrêtée. Je faisais ma pratique à cet endroit. J'ai un diplôme en droit. Je me souviens encore de son visage plein de désespoir, de peur et d'angoisse. Étant devant elle, j'ai ressenti d'elle une sensation très lourde et étrange. Je me suis approché d'elle et je lui ai posé quelques questions. Si elle savait où elle habitait, etc. Elle m'a dit que nous étions tous déjà morts, que nous l'étions tous, que nous leur appartenions, entre autres choses très étranges, cela m'a simplement laissé paralysé. Après 20 minutes passées avec elle, des gars grands et bien habillés sont arrivés. Ils m'ont pratiquement forcé à sortir de là. J'ai demandé pourquoi ils faisaient tout cela, si elle n'était qu'une pauvre fille souffrant de troubles mentaux. J'ai demandé où ils l'amenaient. Ils m'ont dit que ce n'était pas de mes affaires, que c'était pour mon bien de la quitter. Quand je suis parti, ils m'ont arrêté et m'ont demandé ce qu'elle m'avait dit. J'ai seulement répondu « des choses folles » et je me suis enfui. Le lendemain, je suis allé voir les hauts fonctionnaires du ministère et je leur ai parlé du sujet et que je voulais des informations parce que la famille de la fille me le demandait. Ils ont juste ri et dit « vraiment, elle n'existe pas, elle n'a jamais existé et tu ne travailles pas ici. » J'ai eu un frisson et je suis parti. J'ai tout quitté et j'ai quitté Monterrey. J'avais le sentiment que ce qui s'était passé ce jour-là et que cette fille avait dit était vrai. Comme j'ai pu, j'ai tout laissé et je suis sorti de là. Elle m'a dit qu'à Monterrey, il y a une sorte de base souterraine où ils vivent et volent régulièrement des enfants pour de la nourriture et d'autres choses. De par mon métier, je n'ose pas dévoiler ma rencontre. J'ai une famille et des enfants qui dépendent de moi et pour des raisons logiques et de réputation, je ne peux pas. J'aimerais sortir et l'étendre aux 80, mais la société me qualifierait de fou, même si j'ai des marques de l'attaque. J'ai encore un peu mal au dos, il y a des nuits où je n'arrive pas à dormir. J'ai ce même sentiment quand je les ai vus la première fois. C'est comme une prémonition. J'apprécie que vous me jugez pas fou de vous avoir dit cela. Seul moi et ceux qui étaient avec moi à ce moment-là savons ce qui s'est passé. Ce sont des monstres, du moins. Celui qui m'a attaqué était un monstre. S'il m'avait trouvé seul, il m'aurait tué. Cette source Internet anonyme est-elle légitime? Qu'est-il vraiment arrivé à Gabriella après avoir été arrêtée par la police? Il est fait référence à son transfert dans un hôpital psychiatrique de Colonia, Buenos Aires. C'est là que l'histoire prend une tournure, du moins pour les blogueurs et chercheurs anglophones. La mention des mots « Buenos Aires » a amené certaines personnes à croire que Gabriella avait été amenée dans une sorte d'installation de type MK Ultra ou Illuminati en argentine, où elle avait disparu. Cette branche de l'histoire est devenue quelque chose avec de multiples terriers de lapin. Le seul problème avec cela est que les chercheurs anglophones n'étaient pas familiers avec le mot « colonia » utilisé dans un contexte mexicain. « Colonia » fait référence à un quartier ou à un quartier d'une ville. À Monterrey, il y a un quartier qui s'appelle Buenos Aires et il y a un hôpital psychiatrique là-bas. Un autre chercheur en ligne a trouvé une femme nommée Gabriela Rico Jiménez dans un hôpital de Ciudad Juárez, mais la photo de la femme Juárez n'était pas celle du mannequin en question. Une autre théorie en ligne prétend que Gabriela a été amenée de l'autre côté de la frontière mexicaine vers l'Arizona, où elle a été abattue sur la propriété d'une cimenterie appartenant au milliardaire mexicain Carlos Slim, que Gabriela a mentionné dans sa diatre. Il existe de nombreuses autres théories sur les allées et venues de Gabriela qui ont depuis disparu de l'Internet. Tout dans cette affaire est bizarre et très peu de choses ont un sens. Gabriela est-elle simplement une personne en état d'ébriété ou une malade mentale sans aucun antécédent? S'est-elle enfin libérée de ses maîtres de l'élite qui la contrôlait? Cette femme était-elle une théoricienne du complot délirante qui a craqué sous le poids de ses recherches? Gabriela a-t-elle été victime d'une sorte d'expérience secrète de contrôle mental? Ce jeune top modèle en savait-il et en voyait-il trop? On ne saura peut-être jamais tout ce qu'il y a à savoir sur la mystérieuse disparition de Gabriela Rico Jiménez. L'homme d'affaires Carlos Slim Helú, avec une autre victime MKUltra, la chanteuse Shakira, et la journaliste Diane Sawyer. Voyez ci-dessous comment cette dernière utilise une combinaison même mot pour déclencher les autres personnalités, l'alter ego de Britney Spears. Mais ça, c'est dans la vidéo, sur le site. Moi, mon travail ici, c'est de vous donner de l'audio. Bien sûr, les gens peuvent se demander, avec une certaine méfiance, si le trafic et l'esclavage sexuel des enfants, les sacrifices rituels sataniques et le cannibalisme sont bien une réalité ou tout simplement une lubie des conspirationnistes. Cette réaction et ce questionnement sont tout à fait naturels puisque plus le crime est grand et monstrueux, plus il est difficile d'y croire pour le commun des mortels. Mais pour se rendre compte de la véracité de ces faits, il suffit de regarder les divers témoignages de l'ancien banquier de la haute finance, un certain Ronald Bernard. Ses références sont l'économie, la psychologie, l'architecture et la théologie. Ronald Bernard, a travaillé pendant plus de 25 ans au sein de l'Union européenne dans divers secteurs de l'industrie. Il a également exercé une fonction d'intérimaire financier dans la négoce et la gestion d'actifs sur le marché des devises. Son témoignage révèle la véritable nature obscure du monde dans lequel nous croyons tous vivre. Corruption, fraude, guerre, manipulation, tromperie, satanisme et pédocriminalité. Lors d'un témoignage, le 4 juin 2018, devant la commission d'enquête sur la traite des êtres humains et les abus sexuels sur les enfants, organisée par le Tribunal international de justice naturelle, Ronald Bernard dit devant l'Assemblée réunie « Indirectement, je tuais des gens. Comme si vous êtes dans un bombardier furtif, lâchant des bombes. J'ai fait ça financièrement, à titre de mission, comme détruire temporairement l'économie d'Italie. » Et peu de temps après, quand tu es dans les marchés financiers, tu écoutes les gens qui étaient impliqués et tu les entends rire parce que des personnes se sont suicidées parce que leurs compagnies ont été détruites et ils ont laissé derrière eux leurs femmes avec des enfants. Et nous rions éclat à propos de cela, nous aimions ça. C'est le monde d'où je viens. Le point tournant fut parce que j'étais devenu tellement efficace dans tout ce que je faisais avec mon équipe que j'étais prêt, selon eux, à passer à la dernière étape et à être invité au sacrifice d'enfants. Ça m'a rentré dedans. Ceci a vraiment percé ma carapace. Je ne pouvais pas gérer ça. Ça m'a frappé comme l'enfer. J'y suis pas allé et j'ai commencé à mal fonctionner et toute ma carrière s'est effondrée. Il suffit de regarder le témoignage horrifiant et poignant de la jeune Teresa Fitt en 2009 pour le compte de l'émission 60 Minutes en Australie. Celle-ci fut forcée par sa grand-mère à participer à des rituels sataniques qui comprenaient des sacrifices d'êtres humains, dont des bébés. Teresa, qui avait 15 ans à l'époque du reportage, fut elle-même mise enceinte à plusieurs reprises à partir de l'âge de 11 ans pour que ses propres bébés puissent être sacrifiés. Par la suite, elle dit « J'ai vu des tas de bébés tués là-bas. Juste des nouveaux-nés ou des bébés avortés qui étaient petits. Vous savez, des enfants de 4 ans, de n'importe quel âge en fait. » Plus loin, la journaliste Young Craig Leslie lui demande ce qu'il faisait avec les bébés avortés lors des cérémonies. Teresa répond « J'avais l'habitude d'être amené la plupart du temps et une fois un bébé a été avorté de moi. » Puis tué devant moi parce qu'il était encore en vie. Après l'avoir tué, je le mangerai. Eh bien, nous avons également été obligés de le manger. Ian Leslie décrit cela comme l'histoire la plus douloureuse et la plus troublante qu'il a eu à raconter en 27 ans de journalisme. Il fit un suivi de cette histoire dans le reportage « The Double Made Me Do It » en 1990. Je vous lis ça, puis j'ai de la difficulté à continuer, mais coudonc, je fais ma job. Des témoignages comme ceux-là, il y en a plusieurs centaines sur Internet. Nous n'avons qu'à regarder ce témoignage ou encore celui de l'acteur et cinéaste américain Rick Schroeder, ancien enfant star qui nous parle des sacrifices rituels sataniques qui ont lieu à Hollywood. Et que dire du témoignage de William Arnold Cumbus du pensionnat indien de Kamloops? Celui-ci était le seul survivant de 10 enfants qui ont disparu lorsque la reine Elisabeth II et le prince Philippe sont venus visiter l'école catholique pour un pique-nique. Il écrivit une déclaration sur ce qui s'est passé en 1964, suivie d'une copie de la lettre déjà remise à la reine en janvier 2008 par les survivants des pensionnats au Canada. Je cite « En septembre 64, alors que j'avais 12 ans, j'étais détenu à l'école de Kamloops et nous avons reçu la visite de la reine d'Angleterre et du prince Philippe. Je me souviens que c'était étrange parce qu'ils sont venus tout seuls, sans grande fanfare ni rien. Mais je les ai reconnus, le directeur de l'école nous a dit que c'était la reine et que nous avons tous reçu de nouveaux vêtements et de la bonne nourriture pour la première fois depuis des mois, la veille de son arrivée. Le jour où elle est arrivée à l'école, je faisais partie d'un groupe d'enfants qui sont allés pique-niquer avec la reine et son mari et les responsables de l'école, dans un pré près de Dead Man's Creek. Au bout d'un moment, j'ai vu la reine quitter ce pique-nique avec 10 enfants de l'école et ces enfants ne sont jamais revenus. Nous n'avons plus jamais entendu parler d'eux et ne les avons jamais revus, même quand nous étions plus âgés. Ils étaient tous de là-bas, mais ils ont tous disparu. Le groupe qui a disparu était composé de 7 garçons et 3 filles âgées de 6 à 14 ans. Je ne me souviens pas de leur nom, juste un prénom occasionnel comme Cecilia et il y avait un Edward. Le mari de la reine Élisabeth II, le prince Philippe, a dit un jour « Le cannibalisme est une solution radicale mais réaliste au problème de la surpopulation. » Ne voyons-nous pas dans cette phrase une source d'inquiétude? William Arnold Combes devait être l'un des principaux témoins lors de la session d'ouverture du Tribunal international sur les crimes d'Église et d'État le 12 septembre 2011 à Londres, en Angleterre, mais il ne s'y est jamais rendu. Il est décédé dans un hôpital de Vancouver en février 2011 à l'âge de 59 ans. Sa cause officielle de décès est la tuberculose, mais comme son infirmière a témoigné qu'elle croyait qu'il avait été empoisonné et tué par l'administration médicale, elle déclare qu'il n'y a aucune preuve de tuberculose et qu'il n'a même jamais été traité pour la tuberculose. Elle a vu à la place des symptômes compatibles avec un empoisonnement à l'arsenic. La découverte du charnier à Kamloops nous a contraints à une horrible reconnaissance. Les revendications de longue date des peuples autochtones, selon lesquelles leurs enfants ont disparu et n'ont jamais été renvoyés de ces pensionnats, ne peuvent plus être rejetées comme étant une théorie du complot. Jeudi, le 7 mai 2015, lors de la conférence intitulée « Conscious Evolution on the Next Stage » organisée par Prometa Corporation et la BTC Institute, la futuriste auteure et conférencière américaine Barbara Max Hubbard prononça ces paroles pour le moins étranges. Je cite « Nous sommes la première espèce sur la face de cette planète à être consciente de l'évolution, à être consciente que nous affectons notre propre évolution par tout ce que nous faisons. Les bébés que nous mangeons, la nourriture que nous mangeons, la guerre que nous menons. Nous sommes la première espèce à commencer à comprendre, non seulement nous en sommes conscients de l'évolution, mais nous sommes l'évolution. » Le rabbin et enseignant spirituel New Age, le Dr. Mac Gaffney, modifia très librement et très arbitrairement la phrase par « Nous sommes la première espèce à savoir que nous affectons notre propre évolution par tout ce que nous faisons, les bébés que nous avons, la nourriture que nous mangeons, les voitures que nous conduisons, les guerres que nous menons, même les pensées que nous avons les uns sur les autres. Évidemment, il s'agit ici de camouflage et de malhonnêteté intellectuelle. » Certaines personnes diront que la conférencière a tout simplement fait un lapsus. Si tel est le cas, j'aimerais bien qu'on m'explique quel genre de personne ferait ce genre de lapsus, c'est-à-dire manger des bébés. Et est-ce qu'une femme telle que Barbara Max Hubbard ferait ce genre d'erreur? Je rappelle que celle-ci était une agnostique juive. Elle a étudié à l'École des sciences politiques de la Sorbonne à Paris au cours de sa première année d'université et a reçu un BA CUM Laude en sciences politiques du Bryn Mawr College en 1951. Elle était l'auteur de 7 livres sur l'évolution sociale et planétaire. En tant que cofondatrice et présidente de la Fondation for Conscious Evolution, Hubbard a postulé que l'humanité était au seuil d'un saut quantique si les capacités scientifiques, sociales et spirituelles nouvellement émergentes étaient intégrées pour faire face aux crises mondiales. Elle a également co-présidé un certain nombre de sommets citoyens soviéto-américains introduisant un nouveau concept appelé SYNCON pour favoriser la convergence synergique avec des groupes opposés. À mon avis, Barbara Max Hubbard n'a pas fait un simple lapsus comme on pourrait le croire, et elle a plutôt fait ce que les psychiatres appellent un acte manqué. Comme l'écrit la journaliste Leslie Rezoug dans le magazine L'Express, je cite « Si nous considérons souvent les actes manqués et les lapsus comme la preuve de notre étourderie, ils seraient en effet révélateurs d'un désir inconscient. Un acte manqué est, en psychanalyse et depuis Freud, le résultat d'un acte qui a manqué un objectif consciemment visé et qui est traduit par là l'expression d'un désir inconscient. L'acte manqué témoigne de ce que l'on veut vraiment, résume la psychologie clinicienne Valentine Hervé, avec la langue qui fourche, dirait donc finalement beaucoup plus nous qu'on ne le pense. Ce que nous percevons comme une sortie de route serait en réalité un acte psychique pour faire émerger nos envies. L'acte manqué révèle un conflit inconscient traité par Freud dans la psychopathologie de la vie quotidienne en 1904, puis dans l'introduction à la psychanalyse en 1921. L'acte manqué, révélateur d'une expression inconsciente, est un petit raté qui en dit long. Révélateur d'un sentiment renfloué, selon Freud, l'acte manqué exprime une intention de l'inconscient, au même titre que le lapsus d'ailleurs qui, lui, est une erreur linguistique involontaire. Les spécialistes de Eureka écrivent « Il est admis qu'un acte manqué est un lapsus gestuel, car c'est une façon involontaire d'exprimer un sentiment ou un désir inconscient, voire refoulé. Ce n'est pas le fruit du hasard. Les psychanalystes considèrent qu'un acte manqué est un passage à l'acte sans que la volonté d'agir soit consciente. C'est triste, mais ce genre de personnes disent et écrivent ce qu'ils pensent vraiment au profond d'elles-mêmes. Un peu comme le prince d'Édimbourg qui écrivit dans une préface pour le livre de Fleur Coles, If I Were an Animal, de 1987. Je cite, « Je dois avouer que je suis tenté de demander à être réincarné en tant qu'un virus particulièrement meurtrier. » Il s'agit du même personnage qui dira plus tard, « Le cannibalisme est une solution radicale mais réaliste au problème de la surpopulation. » Oui, ceci est très inquiétant, mesdames et messieurs. Plus de 85 000 enfants sont portés disparus à la frontière américano-mexicaine. Le trafic d'enfants conduisant au travail forcé, à l'esclavage sexuel, aux sacrifices rituels sataniques et possiblement au cannibalisme sont malheureusement une terrible et dure réalité. Tout ceci a bel et bien eu lieu dans notre monde moderne et soi-disant civilisé. Récemment, nous apprenions que le Bureau de réinstallation des réfugiés, Office of Refugee Resettlement, a apparemment perdu le contact avec plus de 85 000 enfants non accompagnés à la frontière américano-mexicaine. C'est purement et simplement un scandale horrible, comme l'écrit Andrew R. Arthur, chercheur résident en droit et politique pour le Center for Immigration Studies. Quelqu'un doit installer une grande pancarte « Aide recherchée »« Help Wanted » à Washington, car le peuple américain a désespérément besoin de rendre des comptes sur les enfants migrants, tant au gouvernement que dans les médias. Nous lisons dans un communiqué de presse du Committee on Oversight and Accountability, soit le comité de contrôle et de responsabilité, je cite le sous-comité de la sécurité nationale, des frontières et des affaires étrangères, a tenu aujourd'hui, soit le 18 avril 2023, c'est très récent, une audience intitulée « Supervision du programme pour les enfants étrangers non accompagnés du Bureau de la réinstallation des réfugiés ». Les membres du sous-comité ont discuté de la façon dont des niveaux sans précédent de passages frontaliers illégaux, encouragés par les politiques de l'administration Biden, ont submergé le Bureau de réinstallation des réfugiés du ministère de la Santé et des Services sociaux et mis en danger les enfants migrants comme tels. Robin Dunn-Marcos, directeur de l'Institut, n'a pas été en mesure de répondre aux questions de base sur la question et la gestion par les Health and Human Services des enfants étrangers non accompagnés, qui a donné la priorité à la libération rapide plutôt qu'à leur sécurité. Une sénatrice républicaine fait actuellement pression sur l'administration Biden pour les 85 000 enfants migrants qui sont portés disparus aux États-Unis. En effet, la sénatrice du Tennessee, Marsha Blackburn, a envoyé une lettre au secrétaire de la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra, demandant des réponses sur l'abus et l'exploitation d'enfants migrants, la suite d'informations faisant état de travail forcé, de témoignages de lanceurs d'alerte alléguant que le gouvernement en livre aux trafiquants d'êtres humains. C'est grave, ça, mesdames et messieurs, comme accusation. Je cite, « Je suis profondément préoccupé par les récents rapports selon lesquels le ministère de la Santé et des Services sociaux a mal géré les enfants migrants non accompagnés en les plaçant avec des parrains non contrôlés conduisant à leur exploitation et au travail forcé. La crise frontalière du président Biden a placé les immigrants illégaux dans des situations dangereuses et souvent mortelles. Les plus de 250 000 mineurs non accompagnés qui ont traversé la frontière américaine au cours des deux dernières années ne font pas exception à la règle. La lettre de Blackburn faisait suite à un rapport du New York Times détaillant une augmentation de l'exploitation des enfants où les enfants sont forcés de travailler parfois pour rembourser leurs frais de contrebande. Certains de ces enfants ont été victimes de la traite et contraints à des emplois dangereux, rapportait le Times. Une dénonciatrice a en outre déclaré au Congrès le 26 avril 2023 que le gouvernement livrait des enfants migrants à un réseau sophistiqué de trafiquants d'êtres humains. Tara Lee Rodas, qui a été détachée auprès du AHS sur un site d'admission d'urgence à Pomona, en Californie, a raconté aux législateurs ce qu'elle a vécu sur le terrain. Je cite. « Je pensais que j'allais aider à placer des enfants dans des foyers aimants. Au lieu de cela, j'ai découvert que les enfants sont victimes de la traite via un réseau sophistiqué qui commence par le recrutement dans leur pays d'origine, passe en contrebande à la frontière américaine et se termine lorsque, bon, l'Office of Refugee Resettlement livre un enfant à un parrain. Certains parrains sont des criminels et trafiquants et membres d'organisations criminelles transnationales. Certains sponsors considèrent les enfants comme des marchandises et des actifs à utiliser pour gagner un revenu. C'est pourquoi nous assistons à une explosion du trafic de la main-d'œuvre. » Le sénateur américain Josh Hawley, républicain, a aussi envoyé une lettre au directeur du Federal Bureau of Investigation, Christopher Wray, exigeant qu'un effort à grande échelle soit fait pour localiser les 85 000 enfants migrants qui ont disparu sous l'administration Biden tout en traduisant en justice tous les criminels du travail des enfants qui les retiennent en esclavage moderne. Selon les statistiques tenues par les douanes et la protection des frontières, quelque 345 000 enfants ont traversé la frontière non accompagnés depuis le début de 2021. Nous savons maintenant que des dizaines de milliers de ces enfants ont été pris dans des opérations massives de trafic et de travail des enfants. Je suis sûr que vous avez vu des rapports récents dans le New York Times selon lesquels le ministère de la Santé et des services sociaux aurait perdu le contact avec pas moins de 85 000 enfants migrants. Des milliers de ces enfants sont maintenant la proie des criminels du travail des enfants. Il a poursuivi. Le FBI doit déployer un effort à grande échelle pour localiser ces enfants disparus et traduire en justice les criminels qui les retiennent en esclavage moderne. Le FBI doit également enquêter sur le AHS et le Département of Homeland Security pour leur rôle dans la facilitation de l'exploitation de ces enfants en violation de la loi. Ce problème doit être une priorité majeure pour le FBI. Plus de 85 000 enfants sont portés disparus aux États-Unis. Robin Dunn Marcus, directrice du Bureau de la réinstallation des réfugiés au Département de la Santé et des services sociaux, a témoigné sur le traitement des enfants non accompagnés à la frontière américano-mexicaine lors d'une audience du comité de surveillance de la Chambre. Les membres ont posé des questions sur les circonstances les plus courantes auxquelles sont confrontés les enfants non accompagnés et sur le processus de vérification des parrains de ces mêmes enfants. J'espère que ce segment vous aura un peu titillé la curiosité. Vous voulez vérifier les sources? GuyBoulian.info, c'est très facile. Ce Disto Show 666 sera disponible sur toutes les plateformes de podcast, également en diffusion continue sur Twitter et sur RadioImpact.ca. C'est la première d'une série, d'une multitude de collaborations entre moi et M. Boulian, et j'espère que ça vous a plu. Distoman vous attend sur distoman.com pour son édition exclusive au site, le blog également. Le Citrep Express. Je vous souhaite une bonne fin de journée et merci d'avoir été à l'écoute.